nous avons essayé vendredi soir et hier après-midi de cerner dans l'Écriture sainte et spécialement dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, quelle est la place d'Israël, de ce qu'on appelle couramment Israël, de ce que l'apôtre Paul appelle l'Israël selon la chair, dans le plan de Dieu. Nous avons vu de quelle élection il bénéficie, une élection dont la signification est d'abord de préparer la venue de celui qui, selon la chair, est issu d'Israël, notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'honneur plus grand qu'un peuple, qu'une famille terrestre puisse recevoir, que d'être la communauté de laquelle est issu Dieu, au-dessus de tout, béni éternellement, comme l'est notre Seigneur Jésus. Nous avons vu ensemble donc quel est ce privilège d'élection, ce qui va avec. Nous avons vu aussi quel est l'échec qui était prédit dans les prophéties, quel est l'échec que l'alliance avec Israël a connu comme une sorte d'aboutissement lorsque le Messie promis est venu, lorsque celui qui est à la fois un fils d'Israël et Dieu le Fils est effectivement entré dans le monde, les siens ne l'ont pas reçu, en majorité. Le rejet n'a été que partiel, mais les autorités de la nation en particulier ne l'ont pas reçu. Et nous avons vu que le point clé en l'affaire a été la question de la façon dont nous pouvons être en règle avec Dieu, ce que l'apôtre Paul appelle la justice. Comment être juste au jugement de Dieu, être en règle avec lui. Israël s'est heurté au rocher de scandale, comme il est appelé par le prophète Ésaïe, le mot scandale veut dire achoppement, et s'est achoppé à cette pierre qui était son Dieu, parce qu'il a voulu tenir devant Dieu par ses propres forces, par ses propres œuvres qu'il a estimé pouvoir être en règle avec Dieu, à force de bonnes dispositions et de conduite conforme aux commandements. Nous avons vu donc comment s'est produit cet échec. Nous avons vu qu'à partir de là, alors, les Israélites qui ne reconnaissaient pas en Jésus le Sauveur et Seigneur, et qui prétendaient toujours tenir devant Dieu par leurs propres œuvres, ont été comme des branches retranchées. Ils sont comparés, nous l'avons vu ensemble, à des branches de l'olivier Israël, l'olivier c'est un symbole pour Israël, qui sont coupées, qui ne font plus partie de l'arbre, qui ne bénéficient plus de la sève de cet olivier, qui ne sont plus en communion avec le Dieu d'Israël. Mais nous avons vu aussi que Dieu a un avenir en réserve, qu'il est capable, comme souligne l'apôtre Paul, de regreffer ses branches dans l'olivier Israël, c'est-à-dire d'amener ces Israélites sur la chair à reconnaître l'action de leur Dieu, le Dieu qu'ils confessent des lèvres, mais qu'ils ont en fait abandonné, auquel ils ont désobéi, en ne recevant pas la justice qu'il donne. Nous avons vu que Dieu est capable de les regreffer, qu'il le fait dans toutes les générations, pour des individus nés israélites et qui embrassent la foi chrétienne, et sont des enrichissements prodigieux pour l'Église. Cela s'est réalisé à travers toute l'histoire. Mais nous avons vu aussi qu'il y a des raisons qui paraissent suffisantes dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, et il y a aussi quelques autres versets dans l'Écriture qui permettent d'attendre un mouvement massif de regreffe, de conversion à Jésus de ces Israélites selon la chair qui le refusent jusqu'à ce jour. Et nous avons des raisons de penser que cet événement peut être proche, que le Seigneur est en train de le préparer, entre autres modalités, par se retournent un grand nombre d'Israélites selon la chair dans la terre promise autrefois. Cela ne veut pas dire qu'il y a un droit particulier, avons-nous estimé, mais nous pensons que c'est une mesure que Dieu prend, qui nous est un signe que Dieu va bientôt regreffer ses branches coupées et aboutir donc au salut de tout l'olivier en bouclant la boucle dans une portée glorieuse. Voilà ce que nous avons vu là, dans ces précédentes études, et nous considérons aujourd'hui quel doit être notre comportement à l'égard de cet Israël que Dieu a ainsi conduit, pour lequel Dieu a ainsi déterminé son plan. La vérité est toujours liée à la vie dans l'ensemble de la Bible. Il ne faut pas dévaluer l'aspect de vérité en disant « Oh, tout ce qui compte, c'est la pratique ». Non. Mais effectivement, de la vérité que nous révèle Dieu, il y a toujours un débouché pratique. Et la vérité et la vie sont étroitement unies. La vie doit se régler sur la vérité, mais la vérité doit engendrer une vie qui lui est conforme. Alors, quel est dans notre vie ce qui doit être conforme, ce qui sera conforme aux vérités que nous avons discernées dans l'Écriture, et spécialement dans Romains 9 à 11. C'est ce que nous considérons ce matin. Et je relis une partie du chapitre 11 de l'Épître aux Romains, que nous avons déjà lu hier, mais le texte est tellement dense, il y a une telle concentration de révélations sous l'inspiration du Saint-Esprit que l'apôtre Paul a opéré dans ces versets, qu'il vaut la peine de relire. Je suis sûr que ce n'est pas superflu. Alors nous relisons donc dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. Si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. L'apôtre Paul emploie là une double image. Celle des branches, c'est celle de l'olivier, que je viens de rappeler il y a un instant. Il y a une autre image aussi, qui est celle de la pâte. Lorsque les offrandes étaient faites selon la loi de Moïse, c'était le principe. Si les prémices sont saintes, alors cela vaut pour tout ce qui est fait avec ces prémices, toute la pâte. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, ça c'est pour les chrétiens qui sont greffés dans l'olivier par la foi, alors qu'ils ne proviennent pas de l'olivier Israël, qu'ils sont d'un olivier sauvage, qu'ils sont des nations que Dieu n'avait pas choisi spécialement comme il avait choisi Israël. Donc, l'apôtre Paul s'adresse ici plus spécialement à des païens d'origine non-juive, non-israélite, païenne, si on emploie le mot dans ce sens qui est un sens normal du terme. Donc, si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier, ne fais pas le fier aux dépens de ses branches. Si tu fais le fier, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées pour que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées du fait de leur manque de foi. Et toi, c'est par la foi que tu tiens. N'en tire pas orgueil, et plutôt de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés, car Dieu a le pouvoir de les greffer à nouveau. En effet, si toi, tu as été retranché de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à la nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison,
Eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, mes frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous croyiez pas trop avisés. Israël est devenu obtus spirituellement, en partie, jusqu'à ce que la totalité des non-juifs soit entrée. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Du point de vue de la bonne nouvelle, certes, ils sont ennemis. Il s'agit des Israélites de la chair, les branches coupées, à cause de vous. Mais du point de vue du choix de Dieu, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons de la grâce et la paix de Dieu sont irrévocables. En effet, tout comme vous autrefois, vous avez refusé d'obéir à Dieu, et maintenant pourtant vous avez obtenu compassion du fait de leur refus d'obéir, de même, eux aussi, maintenant, ont refusé d'obéir du fait de la compassion dont vous bénéficiez, pour qu'eux aussi puissent maintenant obtenir compassion. Car Dieu a enfermé tous les humains dans leur refus d'obéir pour avoir compassion de tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé de retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. Amen. La première réponse qui nous convient face à la révélation dont nous venons encore de relire un exposé, c'est, me semble-t-il, l'émerveillement. Dieu fait des merveilles et la réaction aux merveilles, c'est l'émerveillement. C'est l'émerveillement devant la grâce de Dieu. Dieu a réalisé son dessein et Paul en a déployé toute la richesse devant nous. Et nous sommes là devant l'expression d'une sagesse infiniment supérieure. Dieu a agi d'une façon qui est prodigieusement fine, intelligente, ajustée à l'expression de tout ce qu'il est, de sa sainteté et de sa bonté. Nous sommes surpris, ses voies sont incompréhensibles, nous sommes étonnés qu'il ait ainsi agi avec Israël, avec cet échec, avec ce retranchement. Mais nous nous rendons compte finalement que c'est ainsi que Dieu se glorifie le mieux, le plus, qu'il aboutit au résultat le plus merveilleux, de telle sorte que nous sommes émerveillés. Et l'émerveillement porte spécialement sur la grâce. Tout est de l'initiative divine, tout est de lui et par lui. Qui lui a donné le premier pour être payé de retour? C'est Dieu qui commence, c'est Dieu qui est le Dieu du cadeau pur qui ne correspond à rien qui le motive du côté des bénéficiaires. C'est de la pure générosité. Ce n'est pas un calcul que Dieu aurait fait pour lequel donc les humains pourraient être payés de retour. Non, c'est la pure grâce de Dieu. Et c'est ce que le verset 32, je vous le rappelle, je l'ai un peu expliqué hier, mais veut spécialement faire ressortir. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les hommes, ça veut dire d'abord les païens, les non-juifs, et ensuite aussi les juifs, les israélites. Et c'est successivement qu'ils ont été en quelque sorte enfermés dans la désobéissance. Les païens, Dieu les a laissés jusqu'à la venue de Jésus-Christ suivre leur propre voie. Et donc, ils se sont livrés à toutes sortes d'idolâtrie et d'immoralité. Et les Israélites, c'est maintenant, dans leur majorité, hein, c'est partiel, mais dans leur majorité, ils sont dans la désobéissance par rapport à la justice de Dieu, par rapport à la venue de Jésus-Christ, ce qui est le sujet le plus important qui puisse être au monde, Dieu lui-même venu en chair. Et ils le refusent, ils le rejettent. Donc ils sont dans la désobéissance maintenant. Et Dieu a fait en sorte donc, que ces deux catégories, successivement, les non-juifs et puis les juifs, soient dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Il prend les païens qui suivent des voies de désobéissance et il leur fait grâce. C'est surtout les païens qui se convertissent par le ministère de l'apôtre Paul et qui vont constituer l'Église. Il y a des juifs aussi, et même beaucoup, je l'ai dit hier, mais c'est quand même une majorité de païens. C'est la totalité des païens élus de Dieu qui entrent dans l'Alliance et dans le salut. Donc Dieu prend ceux qui étaient désobéissants et il leur fait grâce. Et il va faire de même avec les juifs. Maintenant qu'ils sont dans la désobéissance, il va leur faire grâce dans ce grand mouvement de regreffe, de conversion dont j'ai parlé hier à l'instant et dont on a parlé hier. Et pourquoi agit-il ainsi? Pour qu'il soit parfaitement clair, évident, glorieusement manifeste que tout est grâce, que c'est pure grâce de lui. Précisément ceux à qui il accorde le salut, il l'accorde alors qu'ils ne le méritent pas. Les païens qui étaient idolâtres, nos ancêtres qui adoraient le soleil, la lune et la terre. Petite allusion qui se veut humoristique. Mais aujourd'hui, vous avez de nouveau des adorateurs de la terre. Sous le ton de Gaïa, du côté des écologistes, il y a parfois un véritable culte. Ça prend une couleur religieuse. Nos ancêtres, donc, étaient idolâtres, et Dieu a fait grâce, et nous sommes ici, en vertu de cette grâce. Et il va de même permettre à un très grand nombre d'Israélites selon la chair de reconnaître enfin en Jésus le Sauveur et le Seigneur, et être sauvés. Et ce sera pure grâce, puisque c'est après des siècles et des siècles de blasphèmes contre Jésus, parce que dans le Talmud, il y a vraiment des blasphèmes contre Jésus. Il est appelé un charlatan, il est appelé un prophète. Donc, après des siècles de blasphèmes, ils vont être eux aussi au bénéfice de la grâce, qui sera manifestement pure grâce. Et j'ajoute encore une pensée à ce propos qui nous montre que notre vie entière doit être action de grâce. La réponse à la grâce, c'est l'action de grâce. Notre vie entière doit être action de grâce. Comme elle doit être émerveillement devant les merveilles de Dieu, c'est que pour nous, c'est en quelque sorte une double grâce. Puisque précisément, nous n'étions pas de l'olivier Israël et nous avons été greffés dessus. Nous sommes greffés en quelque sorte contre notre nature de non-juifs. Nous devenons des juifs spirituels. C'est ce que dit Paul à la fin du chapitre 2 de l'épître aux Romains. Il dit que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur, qui l'est intérieurement, c'est-à-dire qui est purifié. Ce que symbolisait la circoncision, il l'éprouve par le Saint-Esprit dans l'intérieur de sa personne. C'est là le vrai juif, dit Paul, dont la louange est de Dieu et non pas des hommes. Là, c'est une allusion sur l'étymologie du nom de juif. Juif vient de Judas, c'est judéen, Judas. Et lorsque Judas est né, sa mère s'est exclamée à propos de la louange et a fait un lien entre le nom Yehuda et le verbe Yada qui signifie louer en hébreu. Donc l'apôtre Paul dit: le vrai juif, celui que Dieu veut bien louer dans sa grâce, c'est celui qui est circoncis de cœur. Ce que nous sommes par la grâce de Dieu, contre la nature incirconcise qui était la nôtre de naissance. Donc, premier point sur le comportement et la réaction qui nous convient, c'est l'émerveillement devant la grâce de Dieu. Deuxième élément que le texte que nous avons lu, donc la parole de Dieu, met en relief, c'est la vigilance quant à la foi. L'apôtre, vous l'avez vu au verset 20 et 21 en particulier, invite à considérer comment comment les choses se sont faites dans cette espèce de permutation. Les branches naturelles de l'olivier, les Israélites pour la chair, ont été coupées, retranchées, et nous, nous n'étions pas de cet olivier, nous avons été, nous, entre les païens, nous avons été greffés. Alors, comment est-ce que ça s'est fait? Ça, c'est la question décisive, elle est celle de la foi. C'est parce qu'ils ont refusé le régime de la foi, recevoir le don de Dieu simplement par la foi, qu'ils ont voulu se reposer sur leurs œuvres, qu'ils ont été retranchés. Et nous, si nous avons été greffés, c'est par la foi. Voilà le point qu'il souligne. Mais immédiatement, il ajoute, attention, il faut persévérer dans cette foi. C'est par la foi que tu te trouves maintenant hanté à la place des branches naturelles qui ont été retranchées, mais il faut demeurer dans la foi, ce qui veut dire aussi demeurer dans cette bonté de Dieu, sachant que tout est pur cadeau de sa part. Cela n'a rien d'automatique. Nous risquons toujours, nous qui sommes par la foi dans l'olivier qui correspond au corps du Christ aussi, notre image, nous risquons toujours de déchoir de la foi, de laisser nous en rendre bien compte dans ce qui n'est plus la foi. Et je pense qu'il y a deux formes qui nous guettent particulièrement. Il y a la forme qui correspond précisément au refus de la foi en Israël, le légalisme. Oh, ils croyaient avoir la foi, hein. Ils disent, nous croyons en Dieu, mais en fait, ce n'était pas cette foi qui reçoit la justice de Dieu et le reconnaît comme le Dieu de pure grâce. Donc il s'éloignait de lui. Mais le légalisme, il nous tente aussi. Nous sommes, vraiment c'est mon expérience personnelle, c'est mon expérience dans les églises évangéliques, nous sommes toujours tentés de retomber dans une forme ou l'autre de légalisme. Lorsque nous nous disons, oui bien sûr, si je suis sauvé, c'est un pur cadeau de Dieu. Mais pour être béni, ce sont quand même, c'est ma conduite qui compte, c'est que je suis fidèle. Là, le Seigneur en tient compte. Pour que je puisse m'approcher de Dieu avec une pleine liberté, il faut que j'ai obéi, que j'ai fait mon culte tous les jours, que je prie autrement. Quand nous réagissons comme ça, c'est déjà du légalisme. Nous pensons pouvoir tenir devant Dieu à cause de ce que nous faisons. C'est une tentation qui nous guette. Alors, il faut faire des œuvres, mais comme action de grâce, non pas pour être agréé de Dieu, mais parce que nous sommes agréés de Dieu, par pure grâce. C'est une conséquence et non pas une cause en ce qui concerne la possibilité pour nous de nous approcher de Dieu et de bénéficier de toute sa bonté. Donc le légalisme, c'est une forme d'abandon subtil de la foi. Et puis la deuxième forme, je pense, c'est plutôt celle de l'attiédissement. Nous croyons ce que Dieu nous a dit, nous confions en lui, mais nous ne sommes pas comme dans un scaphandre absolument étanche. Nous sommes dans le monde de telle sorte que nous sommes exposés à son influence. En quelque sorte, par nos pores viennent aussi toutes les influences de la société dans laquelle nous vivons. C'est normal, nous ne sommes pas faits pour être de purs individus, chacun dans sa coque ou son scaphandre. Nous sommes faits pour être dépendants les uns des autres. Nous nous influençons, c'est normal. Et donc, comme chrétiens, dans un monde qui rejette Dieu et sa grâce, nous risquons d'être effectivement contaminés, nous risquons de trouver de plus en plus difficile de croire. Nous voyons tous les gens autour de nous, des gens très bien, des gens intelligents, ils ne croient pas, ils ne font pas, ils rigolent lorsque on parle des choses saintes de Dieu, et ça nous influence. Il faut résister, être ferme dans la foi, en criant au Seigneur, pour, et puis en s'aidant aussi de l'influence des frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est si important de se retrouver entre frères et sœurs, parce que nous sommes dans le monde, et c'est la volonté de Dieu, mais cela représente une tentation constante de décliner dans la foi. Je vous rappelle cet avertissement du Seigneur Jésus qui dit que parce que l'iniquité augmentera, et elle augmente dans notre monde, il va y avoir le rôle de mafia mondialement, et les mœurs courantes, la charité du plus grand nombre, ça tiédira. Parmi les disciples, le zèle, l'amour de Dieu. Et puis, dans une autre parabole, il pose la question à propos du problème de la prière pour laquelle il faut persévérer. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus avertit que les derniers jours seront des temps où il sera difficile de tenir bon dans la foi. Donc l'avertissement est extrêmement pertinent pour nous. Aujourd'hui, cet avertissement que l'apôtre Paul adresse aux branches qui ont été greffées dans l'olivier. Et je pense qu'il y a un point que je ne peux pas laisser de côté. Il dit donc, et de la crainte, et de la crainte. Et si tu ne persévères pas dans la foi, Dieu te retranchera aussi. Alors, est-ce que cela veut dire que nous perdons toute assurance du salut? Quant au mot de crainte, je pense que je peux donner un petit mot d'explication qui est utile pour ce passage et pour d'autres passages aussi. Nous pensons tout de suite à ce que dit la première épître de Jean, l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment, donc l'amour parfait bannit la crainte. Alors comment l'apôtre Paul peut-il nous dire « aide la crainte » ici? C'est la première difficulté qu'il faut résoudre. Je pense qu'elle se résout quand même assez bien. Premièrement, précisément, notre amour n'est pas parfait. Donc, nous avons à avouer notre faiblesse savoir que il y a des châtiments qui ne sont pas des châtiments de punition, mais des châtiments d'éducation que le Seigneur administre à ses enfants même. Cela ressort de plusieurs passages. Mais deuxièmement, je pense qu'on doit dire que ce retranchement dont Paul brandit la menace ne se réalise pas forcément. Alors, c'est assez subtil, mais je crois que vous allez comprendre. D'abord, l'apôtre Paul parle ici, non pas de purs individus. Lorsqu'il dit les branches coupées, il parle de toute la part d'Israël qui a refusé le Messie et tous leurs descendants jusqu'à nos jours. Donc ce n'est pas purement individuel. Oui. Et donc la menace de retranchement pourrait correspondre à une menace sur des branches de christianisme qui ont abandonné la foi, au moins la foi biblique, et qui sont tombées. De même que le Christ glorifié dans l'Apocalypse menace des églises d'enlever le chandelier de ces églises, de cette église. Il me semble qu'on peut dire qu'il menace ici de retranchement. C'est équivalent. Ces églises ont disparu, auxquelles écrivait l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. L'église d'Éphèse, il n'y a plus d'église à Éphèse, à Smyrne, etc. C'est la Turquie musulmane. Donc, on peut comprendre ce retranchement, non pas des individus par rapport à leur salut personnel, comme nous disons, mais par rapport, on peut comprendre des branches de chrétienté. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui joue pour d'autres passages aussi, et là pour des individus, Le risque est réel. Et si nous étions seuls, laissés à nos seules ressources, nous tomberions dedans. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur peut nous avertir de ce risque, tout en se servant de cet avertissement même pour nous empêcher de tomber. J'emploie très souvent l'image, une image qui est simple, mais je pense que quelques-uns d'entre vous, vous avez pu m'entendre déjà, mais l'image du papa qui est avec son petit garçon, qui joue à 2-3 mètres du précipice. Et le papa dit, attention, si tu t'approches trop, tu vas tomber dans le précipice. Le risque est réel, le risque de tomber dans le précipice. Mais en même temps, on est sûr qu'il ne va pas tomber parce que le papa est là et qu'il va intervenir si son enfant s'approche de trop près du bord. C'est comme ça que Dieu nous parle. Il nous avertit d'un risque réel qui existe, dans lequel nous tomberions si nous étions seuls, mais il l'a. Et il fait en sorte que nous ne tombions pas. Je crois en tout cas que des versets nous assurent de cela, nous permettent de dire que nul ne nous ravira de la main du Seigneur, parce que c'est la main du Seigneur. C'est lui qui nous tient. Si c'était à nous d'assurer la chose, là, ce serait beaucoup moins certain. Mais l'assurance, c'est une assurance qui n'est jamais qu'une assurance de la foi et dans la foi. Nous n'avons pas une assurance qui nous permette de dire « Ah bon, moi je suis en sécurité, hors de la foi ». C'est en regardant au Seigneur uniquement que nous pouvons avoir l'assurance qui nous est effectivement donnée. Troisième élément du comportement, d'après le texte de l'apôtre Paul, le respect envers Israël. Là, nous sommes davantage dans le sujet de trois études. L'apôtre avertit contre un danger qui est jumeau de celui du manque de foi, mais c'est celui de l'orgueil et du mépris pour les Juifs qui refusent le christianisme. Les non-juifs, qui sont maintenant dans l'olivier, peuvent se dire, voilà, ces juifs ont bien mérité ce qui leur arrive, et puis ils n'ont pas été malins. Ben, ne faites pas les malins, dit Paul. Vous ne pouvez pas avoir cette attitude à l'égard de ces branches retranchées, de ces juifs qui refusent de reconnaître la seigneurie de Jésus. Il faut reconnaître que dans l'histoire de l'Église ou des Églises, cette attitude d'orgueil a existé. Et on a beaucoup parlé de l'expression déicide, c'est-à-dire meurtrier de Dieu, qui a été employée pour le peuple d'Israël dans des éléments de liturgie. Alors je dirais qu'en un sens, le mot n'est pas faux. C'est vrai que le peuple a réclamé la mort de celui qui est Dieu. Mais ce qu'il y a de faux, de profondément faux dans l'usage de cette expression, c'est que si Israël a été déicide, c'est-à-dire la génération du premier siècle a réclamé en majorité crucifie la mort de Jésus, si Israël l'a été, Israël l'a été en tant que notre représentant. C'est toute l'humanité, c'est nous qui avons conduit le Seigneur sur sa croix par notre refus de sa volonté, par notre péché. Jésus a souligné que dire à son prochain imbécile, c'est déjà vouloir le tuer. C'est déjà exprimer un sentiment d'agressivité qui veut l'élimination de l'autre. Donc il déjà commence à le tuer. Eh bien, il en est de même par rapport à Dieu. Dès que nous accusons Dieu de ne pas faire les choses comme nous voudrions, qu'il les fasse, que ses commandements sont pénibles, dès que nous désobéissons, nous voulons éliminer Dieu. Nous sommes déicides, si le Seigneur Jésus est monté sur la croix, c'est à cause de notre péché, de ce péché qui, dans son fond, est, oui, toujours déicide, mais vous voyez, ce n'est pas Israël, spécialement, c'est nous tous. Et il est remarquable que dans les récits de la Passion de Jésus, précisément, les responsabilités par rapport au, à la mort de Jésus soient très, très précisément liées les unes aux autres. C'est Israël qui a réclamé la mort de Jésus, mais c'est Pilate qui a accepté, et ce sont les Romains qui l'ont exécuté. Donc, les Juifs et les non-Juifs ont été précisément ensemble, ont collaboré en cette affaire. Et c'est un trait qui est important, parce que Jésus, dans les prédictions de la Passion, souligne que le Fils de l'homme doit être livré aux païens, livré aux mains des païens. Et donc, ce n'est pas juste anecdotique que les Israélites n'ont pas pu eux-mêmes tuer Jésus, qu'ils ont eu besoin des Romains pour le faire. Non, Dieu a voulu que, précisément, juifs et non-juifs soient solidairement responsables. Et il y a, ce qui est peut-être en détail, mais vous voyez, on se centre de toute l'histoire, il y a, tous les détails sont porteurs d'une immense signification. Il y a l'écriteau sur la croix. L'écriteau sur la croix, qui indiquait ironiquement la cause de l'exécution, mais qui était, de par la volonté de Dieu, la vérité même qui était proclamée, Jésus, roi des Juifs. C'est en trois langues, précisément, qu'il a été écrit, en hébreu, en grec, en latin, juifs et non-juifs, ensemble. On ne le voit pas si souvent, parce que sur nos tableaux traditionnels, il y a juste INRI, hein, vous avez vu. Mais ce sont les initiales de l'inscription en latin. Iesus, car en latin, le I et le J sont la même lettre, hein, donc c'est le I, Iesus. Nazarenus, Rex, roi, Judaeorum, des Juifs. Mais l'inscription a été entière, pas seulement les lettres initiales, contrairement au tableau de nos peintres, et il y avait aussi l'inscription en hébreu, ça veut peut-être dire araméen, par la langue cousine, mais enfin, c'est pratiquement deux langues tout à fait voisines. L'hébreu, la langue d'Israël, et le grec, qui était aussi la langue de très grand nombre d'Israélites au 1er siècle d'ailleurs, hein, la langue de la culture de l'ensemble du monde méditerranéen. Donc, nous avons là, comme une indication que Dieu a voulu de l'intrication des responsabilités, aussi bien d'Israël que de toutes les autres nations dont nous sommes issus, au moins la plupart d'entre nous. Cet orgueil, donc, que fustige l'apôtre Paul, il a servi l'antisémitisme, dont nous avons dit hier quelques mots. Cet orgueil a servi de carburant à l'antisémitisme. Et là, je me sens obligé quand même de dire un mot des horreurs de l'antisémitisme dit chrétien. J'ai lu une fois une description, mais c'est hallucinant, des pogroms de la fin du 19e siècle, en particulier en Ukraine. Des foules complètement furieuses qui se précipitent dans les quartiers juifs, qui brûlent, qui tuent, qui éventrent les femmes enceintes, qui coupent en deux les bébés. Et tout ça en criant que c'est au nom du Christ, en disant le Christ est ressuscité, en brandissant la croix. Mais quelle horreur! Mais c'est inimaginable. Cela s'est fait au nom du christianisme dans notre Europe. Alors heureusement, il y a d'autres exemples quand même, hein, heureusement. Et le protestantisme français est reconnu comme ayant une attitude particulièrement opposée à l'antisémitisme philo-judaïque, le successeur de Calvin à Genève, Théodore de Bèze, a fait un sermon dont des historiens juifs aujourd'hui disent que c'est le texte le plus favorable aux juifs qui était écrit dans ce siècle. Et les protestants français ont été proches, et ça s'est encore vu lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec le Chambon-sur-Lignon. Ma propre mère a aussi risqué sa vie. Nous étions en Ardèche, dans le village de Vallon-Bondarc, et elle a risqué sa vie en convoyant des juifs à Marseille, ou près de la frontière suisse, à Annemasse. Donc, oui, les protestants, les catholiques aussi, et en nombre en France, et des évangéliques parmi les protestants, ont montré autre chose que l'antisémitisme, grâce à Dieu. Mais quand même, nous n'avons pas de quoi faire les fiers. Parce que nous sommes solidaires, nous ne pouvons pas écarter toute solidarité avec ceux qui ont fait de notre comportement, hélas. Et puis, il y a même Luther. Martin Luther. Ce serviteur de Dieu si puissant, à qui Dieu a donné de faire resplendir à nouveau après des siècles d'obscurcissement de cette vérité de la justice par la foi, pas par les œuvres, cette justice pure grâce de Dieu. Luther a bien commencé. Il a écrit un texte en 1523 soulignant que Jésus-Christ est né juif. C'est le titre, que Jésus-Christ est né juif. Mais il s'imaginait, un peu dans sa naïveté, que puisqu'il débarrassait le christianisme de toutes ces scories d'origine païenne qui s'étaient accumulées au cours des siècles du Moyen-Âge, qu'il revenait à la pureté du christianisme, que tous les juifs allaient se convertir, que tous les juifs allaient reconnaître Jésus. Et lui-même avait appris l'hébreu, il a traduit tout l'Ancien Testament de l'hébreu en allemand. Il a commencé très favorable, mais alors il se faisait des illusions, il était déçu, parce que les juifs ne se sont pas convertis. Et vers la fin de sa vie, quelques années avant, il était plus ou moins malade d'ailleurs, en 1543, il a écrit un petit livre, « Oh Dieu, contre les juifs et leurs mensonges ». Il reprenait tous les principes de l'antisémitisme du Moyen-Âge. Il était peut-être influencé par un juif qui s'était converti, lui, et qui était très, très critique à l'égard de ses anciens coreligionnaires. Ça a peut-être influencé aussi Luther, mais enfin ça, c'est resté désastreux. Et les nazis en ont profité, hein, les nazis ont republié cet ouvrage de Luther. Et l'horrible pogrom qu'on appelle la nuit de cristal, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, qui était le début vraiment du grand déchaînement contre les juifs en Allemagne. Est-ce que c'est un hasard? Je n'en suis pas sûr, je n'ai pas vu de confirmation de l'intention délibérée des nazis, mais c'était le 10 novembre, c'est l'anniversaire de la naissance de Luther. Donc, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Cet avertissement contre l'orgueil, le mépris des Israélites, il vaut aussi pour nous. Alors là, il y a un développement qu'il faut ajouter à cet endroit. Aujourd'hui, l'antisémitisme prend le plus souvent le masque de l'antisionisme. On le sait, beaucoup de gens l'ont dit dans notre vie politique et sociale en général. On n'ose pas encore tellement être antisémite de manière ouverte, mais l'opposition au sionisme et à l'État d'Israël devient le moyen, finalement, d'exprimer une véritable haine des Juifs. C'est, je crois, la situation d'aujourd'hui. Du coup, est-ce que les évangéliques doivent être sionistes? Voilà la question que je pose. Et je crois que nous sommes fondé de dire non, attention, là, ce n'est pas parce que l'antisionisme masque l'antisémitisme et que l'antisémitisme c'est un péché dont nous voulons que le Seigneur nous préserve entièrement, ce n'est pas pour cela que nous devons être sionistes, c'est-à-dire favorables à la politique de l'État d'Israël. Même si, comme je crois, je l'ai dit hier, cette création de l'État d'Israël fait partie du plan de Dieu et prépare la conversion que j'attends, même si c'est le cas, ça ne signifie pas que nous ayons à approuver et à soutenir les actes des dirigeants d'Israël. Dieu se sert pour exécuter ses plans des méchants qu'il juge et condamne dans le même temps. Si vous lisez Ésaïe 9 et 10, vous voyez que Dieu dit que les Assyriens sont le bâton dont il se sert, c'est l'instrument de la réalisation de ses plans, mais qu'ils vont payer pour toutes les injustices qu'ils commettent, toutes les violences qu'ils opèrent. Donc, ce n'est pas parce que c'est un accomplissement de prophétie, comme certains le croient, ou en tout cas quelque chose qui est inclus dans le plan de Dieu, que nous avons à approuver, pas forcément. Là, il faut se fixer sur les commandements de Dieu, sur ce qu'il dit de sa justice, du respect du prochain. Et là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans ce qui se passe sur la terre d'Israël depuis quelques dizaines d'années. Donc, nous sommes appelés là à une distinction, un discernement, et à beaucoup de sang-froid, sans céder sur l'amour des Israélites, selon la chair. Nous sommes appelés à cet amour, et sans céder non plus sur l'amour des Palestiniens, qui sont nos frères en humanité, et qui ont beaucoup souffert, et qui souffrent encore beaucoup. Nous sommes appelés à un tel discernement. Et cet amour pour Israël, alors, se manifeste suprêmement, quatrième point, par le témoignage auprès des Israélites. C'est impliqué par Romains 9 à 11, dans la mesure où l'apôtre Paul dit bien qu'il est, lui, l'apôtre envoyé aux païens, plus spécialement, mais qu'il le fait pour rendre jaloux ses compatriotes, et il a aussi évangélisé ses compatriotes. Il n'est pas douteux qu'il y a aussi une mission de bonnes nouvelles à communiquer à toutes ces branches retranchées, mais qui doivent être regreffées. Rien n'autorise bibliquement une idée qui circule dans certaines églises, aujourd'hui pas évangéliques, mais selon lesquelles les Juifs pourraient être sauvés sans Jésus-Christ. Qu'il y aurait deux alliances parallèles en quelque sorte, qui seraient des alliances de Dieu. L'alliance par Jésus-Christ pour tous les non-juifs, mais une alliance en Moïse en quelque sorte, par la Torah, qui vaudrait pour Israël et qui permettrait le salut des Israélites fidèles à la Torah. C'est une idée qui circule. Moi, on m'a demandé quelquefois d'écrire là-dessus, j'ai fait des développements. C'est une idée qui, je crois, n'a aucune base biblique. Et rappelons-nous un verset très solennel de l'Écriture, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. C'est à la fin d'une discussion entre Jean-Baptiste et ceux qui sont auprès de lui, c'est sur ce qui est Jésus. Et le texte dit que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est dit par un juif à des juifs, et en vue d'une situation où ce sont des juifs. N'ayons là aucune illusion, ce n'est pas le judaïsme qui peut sauver ses frères en humanité et qui viennent de l'Olivier Israël que sont les Israélites selon la chair. Mais alors attention, nous devons tenir compte des sensibilités lorsque nous nous adressons à ceux que nous voulons initier à la bonne nouvelle, à qui nous voulons dire ce qui est Jésus. Nous devons tenir compte des blessures de leur passé, des formes de langage qui leur sont habituelles. J'ai parlé, parce que nous sommes entre nous, j'ai parlé de conversion plusieurs fois. Mais ça, c'est un mot qu'il faut éviter quand on parle aux Israélites. Parce que pour eux, la conversion, ça veut dire ces mesures du pouvoir politique avec des pressions et des terribles dans tout le Moyen-Âge et ça continue encore après. Européens. Donc le mot conversion signifie pour eux trahison par rapport à leur passé, leur famille, tous ceux qui sont morts dans les camps. Donc, alors, une bonne façon de faire, c'est d'employer le mot hébreu, un mot qui est chez les prophètes, qui appelle au retour. Alors là, on peut parler de la teshuva. Cela passe beaucoup mieux quand on parle aux Israélites selon la chair. Et il y a donc des égards à avoir. Il y a un profil modeste à adopter. Étant donné précisément cette histoire d'antisémitisme, c'est parfois raconté de manière unilatérale, exagérée, mais ça a existé, hélas, et nous en avons honte solidairement. Donc, il y a des égards à mettre dans notre façon de rendre témoignage. Mais c'est une mission qui nous incombe. Nous sommes appelés à coup sûr à le faire. Et je souligne tout spécialement, et bien, termine comme ça, qu'il est bon pour nous de soutenir de toutes nos forces les Israélites selon la chair qui sont devenus aussi des croyants en Jésus, en Yeshua, qui rendent témoignage à leurs frères selon la chair. Il y en a un nombre qui a beaucoup grandi depuis les années 60. Il y a tout spécialement le mouvement juif pour Jésus, qui est un mouvement que je connais un peu, que j'apprécie beaucoup ceux qui s'en occupent en France. J'ai aussi rencontré quelques dirigeants mondiaux, mais je connais en particulier Josué Garnil à Paris. Ils font un travail magnifique et ils ont droit à notre soutien entier. Et d'ailleurs, ils évangélisent de telle sorte qu'il y a beaucoup de non-juifs qui se convertissent par le moyen de leur évangélisation dans les rues. Et ils ont parfois dans leur rang quelques non-juifs aussi d'ailleurs. Je connais un de nos anciens étudiants par exemple. Donc, ils donnent un très bon exemple de ce que le Seigneur prépare. Et c'est dans cette espérance que nous nous plaçons. Ce grand mouvement où les Israélites font la chair verront les écailles leur tomber des yeux, comme il est arrivé à l'apôtre Paul, verront en Jésus qui il est, qu'il est vraiment le sauveur du monde, qu'il est vraiment Dieu avec nous, qu'il est celui qui abat le mur de séparation et qui fait que nous sommes juifs et non-juifs en lui, frères et sœurs, participant d'une même grâce, vivant dans la même action de grâce. Amen.
Alors je pense que, merci beaucoup monsieur Henri Blocher, je pense qu'on a encore du temps pour des questions, donc n'hésitez pas si, voilà il y a un... Ah c'est le micro, pardon.
On m'a dit que certains d'entre nous vont nous quitter à 11h30, mais qu'ils le fassent sans aucune gêne, hein, c'est pas un problème.
Je pense à la foule qui disait que son sang retombe sur nos têtes et celles de nos enfants. Voilà, à titre personnel, je crois pas que ça, du coup, ça les responsabilise eux uniquement, mais comment tu répondrais à...
Alors, je répondrai en disant qu'il me semble qu'il y a un lien avec la parole que Jésus a prononcée pratiquement au même moment, lorsqu'il a dit, au proverbe calvaire, « Si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» C'était une formule qu'il reprenait du livre d'Ézéchiel. « Si on fait ces choses à celui qui vit de la vie de Dieu, lui-même, le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec à tous ces Israélites qui ne sont que selon la chair, qui n'ont pas la vie de Dieu ?» Il prévoit l'horrible désastre qui a eu lieu 40 ans plus tard, en gros, avec la destruction complète de la ville, ça a été une horreur. Jésus a bien fait une relation entre ce rejet dont il a été... et la fin du régime juif qui avait duré jusque-là et qui a été marqué, c'est une transition de 40 ans qui a été marquée par la destruction du temple, jamais plus de temple, et par la destruction de la ville et des atrocités. Des centaines de milliers de juifs qui ont été mis à mort, c'était très très dur. Donc je pense que Jésus a cela en vue et que la parole de la foule pour, sur eux et leurs enfants, en un sens, s'est accomplie de cette façon. Mais il s'agit de cette foule à Jérusalem et de cet événement de l'an 70 ou 66 à 73, puisque c'est toute, c'est une guerre qui a duré quand même plusieurs années, 66 à 73.
Les Juifs vont rentrer en Israël pour attendre le Messie, apparemment. Deux questions. Est-ce que à la venue du Messie, tous les Juifs vont être sauvés? Et deuxième question, est-ce que nous devons soutenir la colonisation pour la construction des maisons en Israël pour les Juifs atteindre le Messie?
Voilà, ce sont les questions brûlantes que j'ai touchées, mais que vous reposez de manière encore plus précise. Bon, je rappelle d'abord un fait, c'est que parmi tous ceux qui ont cette identité juive selon la chair, dans le monde, il n'y a qu'une minorité qui habite en terre d'Israël et qui donc se trouve dans les frontières de l'État d'Israël actuel. Je crois qu'on compte environ 18 millions de Juifs dans le monde et il y en a 6 en gros en Israël, dont 2 millions d'athées d'ailleurs, sans religion. Voilà des chiffres qui remettent un peu les choses en place par rapport à une image qu'ont parfois les évangéliques qui croient que tous les Juifs reviennent en Israël et avec la motivation d'attendre le Messie. Vous voyez, c'est pas comme ça, disons, que les choses se sont produites jusqu'à présent. Mais il y en a qui, quand même, ont cette motivation. Je pense que ça existe. Et la question que nous vous posez est une question très, très pertinente. Mon inclination, qui correspond à ce que j'ai déjà dit hier et aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est assez délicat. Mon inclination, c'est de dire, nous n'avons pas, nous, à nous disposer dans nos actes selon ce que nous présumons du plan de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu, ce sont ses préceptes qui doivent régler notre action. Alors, est-ce que c'est dans le plan de Dieu que ces territoires où il y a pas mal de Palestiniens voient les Palestiniens s'en aller encore et être occupés par des Israéliens sur la chair? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais je pense que notre décision éthico-politique, si on veut, ce qui correspond à ce que nous avons en conscience à accomplir, c'est de juger si c'est juste ou non. Et là, je crois qu'on peut dire que ça ne nous paraît pas l'être. Alors, il y a des choses très injustes qui se commettent aussi de la part de Palestiniens, et en sens inverse, je ne suis pas en train de dire que c'est entièrement blanc d'un côté, entièrement noir de l'autre. Non, pas du tout. Mais je pense quand même que ces colonies occupées lèsent les droits humains réels des populations palestiniennes qui étaient installées.
Le premier volet de la question, c'est est-ce que tous les Juifs... C'est ça, hein, c'est ça.
Est-ce que tous les Juifs seront sauvés?
Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a le sexe. Excusez-moi, j'oubliais. Alors, comme je l'ai dit un peu hier déjà, je pense que cette conversion massive se produira avant le retour corporel visible du Seigneur Jésus. Je pense qu'elle n'affectera pas tous les individus. Il restera toujours la responsabilité individuelle, personnelle, pour chacun, à exercer. Et ce qui me convainc, je vous dis hier, que cet événement est dans le programme de Dieu, cette conversion massive, c'est la symétrie avec ce qui s'est passé au début de l'ère présente, au premier siècle. Dieu va en quelque sorte faire une symétrie pour boucler la boucle. Mais au 1er siècle, tous n'ont pas rejeté. Au contraire, il y a le reste fidèle, et quand même, j'ai bien dit, des milliers, qui ont accepté l'Évangile. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi, parmi les 18 millions de juifs, si ce grand réveil se produit, des milliers qui disent non quand même.
Et ceux qui vont quand Jésus va retourner, ils attendent le Messie, et quand Jésus va retourner, qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de ces Juifs qui vont...
Je pense que la règle générale à propos du retour de Jésus, c'est qu'une fois que Jésus est dévoilé, c'est fini, il n'y a plus de chance de changer. Le temps de la grâce... Tant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez de savoir, non, si c'est pas vos cœurs, il cesse, tant de la patience, de la grâce offerte, il cesse quand Jésus paraît. Le régime de la foi cesse, la vue fait place à la foi, et on n'est jamais sauvé que par la foi dans les perspectives bibliques. Voilà, c'est comme ça que je raisonne.
Juste, c'est historique, je voudrais juste vous demander. Le fascicule de Martin Luther qui a été utilisé par les nazis pour faire cette nuit de cristal, est-ce que c'était bien en 1933?
Alors, je ne sais pas quand ils l'ont publié.
Non, l'utilisation pour faire la nuit de cristal.
Alors, la nuit de cristal, c'est 38.
En 33.
38.
38.
Ah, 38.
38. Oui. Oui, parce que ça a été l'habileté diabolique. Souvent, j'y repense, de ce régime nazi. Tout s'est fait progressivement. Donc, dès 1933, il y a eu des mesures anti-juives. Mais c'était encore assez veineux. Voilà. Et beaucoup de juifs n'ont pas cru devoir quitter. Ils auraient pu à ce moment-là fuir. Et peu à peu, tournevis, supplémentaire. 1938 a été une date marquante. Ce programme a été très important. Là, il y a des... des milliers de commerces juifs qui ont été brûlés, des synagogues et des milliers de juifs envoyés dans les camps de concentration, mais ils n'ont pas encore été exterminés à ce moment-là. Ce n'est pas l'extermination d'anglais. Même en 38. La solution finale a été décidée, je crois qu'en 41. Je ne me rappelle plus. C'est une conférence qui a eu lieu dans la banlieue sud-ouest de Berlin, Wannsee, entre responsables nazis. Mais il s'est fait de manière très progressive, de telle sorte que beaucoup de juifs n'ont pas cru, n'ont pas eu peur. Ils auraient pu fuir à ce moment-là. Et il y en a quand même qui ont fui, quand même. De telle sorte que sur les juifs allemands, il y a eu un pourcentage moindre d'exterminés que sur les juifs polonais ou des pays baltes ou ukrainiens. Parce que justement, ça a commencé progressivement en Allemagne et il y en a quand même qui ont fui. Et qui ont trouvé refuge. Avec certains, malheureusement, qui ont fui en France pour être ensuite livrés par le régime français de Vichy au camp de concentration. Ça aussi, ça fait partie des tâches sur notre histoire qui font mal. Mais voilà.
Pardon, on m'a passé le micro. J'ai une question avec une réponse courte et pas polémique. Le terme Israël, qu'est-ce qu'il signifie ?
Alors, j'ai évoqué vendredi soir, donc la question difficile de son étymologie. Il est donné à Jacob à l'issue du combat mystérieux de Genèse 32, et il semble bien, c'est un jeu de mots peut-être, ou c'est une étymologie, mais que ce soit mis en rapport avec une racine qui évoque la victoire qui permet à un prince de s'affirmer. Le mot « Sam », qui semble être cette racine dans « Israël », signifie très couramment le prince en hébreu. Donc ça semble être le sens donné au nom. Alors il y a un nom, je le mentionne puisque vous parlez du nom, qui est employé très rarement, mais quelques fois, dans le Deutéronome, il est repris, je crois que c'est chez Esaïe, Yeshurun, qui semble être comme une contrepartie pour le nom d'Israël, et qui est, lui, semble procéder de la racine qui signifie être juste, être droit et juste, Yachar. Donc, il est possible qu'il y ait une volonté de dire que les combats d'Israël ne sont pas toujours si purs, mais il y a une vocation à la droiture que Dieu adresse à ce peuple et qu'il réalise par Jésus-Christ, au bout du compte, Yeshurun. Ces deux noms font contraste avec Jacob, Yaakov, qui évoque le tricheur, celui qui fait qu'un croque en jambe. Il tenait Ésaü par le talon au moment de sortir du sein maternel, d'où le nom qui lui a été donné, mais ça évoque plutôt la tricherie. Donc, Jacob, en quelque sorte de naissance par nature tricheur, par la grâce de Dieu, a été élevé à un rang princier et il a vocation d'être Yeshurun, un peu de droiture.
Question un peu dans la continuité de la question précédente. Finalement, c'est quoi un juif? Question peut sembler peut-être un peu naïve, mais on peut, dans les successions de générations de juifs, de mariages entre juifs, non-juifs, et les dilutions qui s'ensuivent, comment reconnaître finalement un juif? Est-ce que c'est son nom de famille? Est-ce que c'est ses origines, son arbre généalogique, sa culture, etc.
La question continue d'être débattue en Israël. Et il y a des aspects juridiques, on n'en est pas d'accord. Donc, oui, la question est très très difficile. Moi, j'arrive à la conclusion que la judéité, l'identité juive, est quelque chose d'unique. Ce n'est pas une appartenance ethnique simplement. Ce n'est pas une appartenance religieuse simplement. Certains rabbins voudraient que ce soit simplement une appartenance religieuse. Et ils dénient la qualité de juif, eh bien, par exemple, aux juifs pour Jésus. Donc, ils voudraient en faire une affaire uniquement religieuse. Mais manifestement, c'est pas comme ça que ça joue. Il y a des gens qui ne sont plus religieux, mais qui ont toujours cette identité juive. C'est complexe, c'est un fruit de l'histoire. Comme je l'ai expliqué dans une des précédentes études, en répondant aux questions, Jean-Paul Sartre avait aussi attaqué la question à propos des bases de l'antisémitisme. Et il avait conclu qu'aucun des critères qu'on a pu manier ne convient finalement. Mais j'ai riposté en soulignant la marque de l'élection divine expliquer l'antisémitisme l'autre jour, mais ça laisse quand même le caractère complexe de ce qu'on appellera judéité devant nous à essayer de décortiquer, et je conclue que c'est un mélange très spécial où l'histoire a beaucoup compté quand même. On parle aujourd'hui assez facilement dans les cercles intellectuel d'identité narrative. Qu'est-ce que signifie être français? Ça signifie avoir l'histoire de France derrière soi, en quelque sorte. Et dire, voilà, j'en suis, c'est nous, cette histoire. Alors, je crois que ce n'est qu'un aspect, qu'une dimension, et qu'on ne doit pas privilégier indûment et à l'excès cette idée d'identité narrative. Mais je pense qu'elle joue pour la judéité. Qu'effectivement, c'est la mémoire qu'il y a eu tant de membres de la famille qui ont été exterminés dans la Shoah, qui fait que se sentent juifs des gens aujourd'hui, qui autrement ne se sentiraient peut-être pas juifs. C'est un ensemble complexe. Voilà à quoi j'arrive. Et je pense que ce n'est pas trop gênant dans la mesure où c'est un reste et ce n'est pas au centre dans le plan de Dieu. Au centre, c'est l'olivier. avec les branches qui sont dans l'olivier. Là, ce sont des branches coupées. Alors Dieu va s'en occuper, parce que Dieu ne veut pas laisser quelque chose d'un peu mal réglé sur le bord. Dieu va boucler la boucle, mais le sort de ces Israélites sont la chair, qui ne sont pas Israël au sens plein. Tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël, dit Romains 9. Nous l'avons vu le premier soir. Cette judéité des branches coupées est quelque chose d'approximatif qui est lié à l'histoire, et donc il n'est pas si grave que nous ne réussissions pas à la définir de manière beaucoup plus exacte. Voilà à quoi j'arrive.
Alors du coup, on va dire les deux dernières questions.
Bon, à moi qui...
Oui. Comment on situe par rapport à ce que tu as dit, Ésaïe 11, parce qu'il est parlé, du reste qui viendrait pour racheter le reste de son peuple, et comment on le situe, parce que bon, peut-être que jusqu'à aujourd'hui je pensais que ça se situait après le retour de Jésus, et en fait j'ai...
Oui, alors je ne crois pas que ce soit après le retour de Jésus, mais je crois que c'est la suite de la première venue de Jésus. Et à mes yeux, la preuve de cela, c'est la citation de ces versets par Romains 15. L'apôtre Paul, pour exhorter juifs et non-juifs, devenus chrétiens les uns et les autres, dans l'église de Rome, ils sont ensemble, le mur de séparation a été abattu, mais les rapports ne sont pas toujours si faciles. Précisément, ce n'est pas encore l'harmonie du royaume achevé. Pour les exhorter, cite ces paroles de Romains 15 à propos de ce que Dieu a fait par Jésus-Christ pour les juifs et pour les non-juifs. Donc je crois que là, il nous donne une clé de lecture. C'est à la première venue déjà que s'accomplissent ces prophéties.
Voilà. Comment est-ce qu'on devrait réagir, ou comment interpréter le fait que certains juifs convertis, qui ont accepté Christ comme le Messie, sont encore profondément attachés à des rites comme la circoncision ou d'autres rites, en tenant compte par exemple de Galates au chapitre 4, je crois, qui exhorte justement à ne plus s'attacher à des pratiques. Voilà. Mais il y a des chrétiens vraiment juifs qui, pour eux, ce serait tout à fait normal encore de se faire circoncire.
Bon, j'ai un peu étudié, j'ai une connaissance qui n'est pas celle d'un expert, mais j'ai un petit peu étudié la question de ce mouvement qu'on appelle souvent juif messianique, et ce que j'ai découvert, et que je vous transmets donc maintenant de manière très nette, c'est que vous avez tout un éventail de positions. Parmi ceux qui sont les croyants juifs en Yeshua, réunis très souvent sous ce nom de juifs messianiques, vous en avez l'un des pôles qui ont exactement, je dirais pratiquement, le même discours que je vous ai tenu, avec lesquels je n'ai vraiment, je crois, aucune différence importante d'interprétation. Vous en avez d'autres à l'autre extrémité, qui, je crois, sont en opposition forte au Nouveau Testament. De deux sortes d'ailleurs, il y en a qui mélangent une théologie libérale avec des doutes sur la divinité de Jésus. Et donc vraiment, ils sortent du christianisme biblique. Et puis, ils élèvent le Talmud, par exemple, en texte qui doit être sacré, etc. Vous avez donc ces deux extrêmes. Et cet extrême-là, je pense qu'il est au moins aussi éloigné de l'Évangile que les judaïsants que l'apôtre Paul avait à convaincre, franchement. Et puis vous avez toutes les positions intermédiaires. Et vous avez une position intermédiaire que j'estime juste, acceptable, mais dont je ne voudrais pas qu'elle soit obligatoire. Celle des gens qui disent nous ne considérons plus que la circoncision ou le respect du sabbat, oui, des fêtes, etc., soit imposé, que nous ayons à acquérir la justice de la loi, mais par solidarité avec le peuple dont nous sommes issus, par volonté de ne pas renier cette identité juive, cette judéité que j'évoquais il y a quelques instants, et pour pouvoir mieux en témoigner aussi, c'est ce que disent certains, nous considérons que nous pouvons circoncire nos enfants, c'est respecter le sabbat, etc. Vous voyez, à titre de solidarité avec ce qu'est devenu le judaïsme au fil des siècles. Alors, quand c'est présenté comme ça, je dis, c'est permis, en effet. Et je salue, je demande simplement que ce ne soit pas rendu obligatoire. Mais vous en avez une autre position, vous avez en plus encore des raffinements, des intermédiaires, mais en gros, une autre position qui dit, oui, ces rites ne sont pas imposés aux païens qui deviennent disciples de Jésus, Yeshua, mais pour ceux qui sont juifs, si, ils continuent d'être soumis à la circoncision, au sabbat, etc. C'est une position qui existe. Alors je crois qu'elle est fausse, qu'elle s'oppose précisément à ces textes comme ceux de l'Épître aux Galates, ou le sabbat de l'Épître aux Colossiens, par exemple, qui dit que c'était donc des choses à venir. Et donc, il me semble que c'est contraire au Nouveau Testament. Mais il y a un point très, très stratégique qui joue dans l'interprétation, c'est les données du livre des Actes. Tout à l'heure, j'ai parlé des 40 ans très brièvement en disant temps de transition. Je crois que c'est une vérité clé pour bien interpréter les choses. C'est un temps de transition. Le vieil édifice lié à l'ancienne alliance, il n'est complètement éliminé qu'en 70, ou 73 peut-être, mais en tout cas 70 avec la destruction du temple. De la mort de Jésus jusqu'à cette destruction du temple, il y a un temps de transition entre ce que nous on peut appeler les dispensations, les économies, l'ancienne et nouvelle alliance. Et donc, dans le livre des Actes, comme c'est la transition, on voit les chrétiens juifs qui participent encore beaucoup, c'est vrai, au culte du judaïsme, qui vont au temple, qui font des vœux, se purifient. Donc les arguments de ce groupe que j'ai évoqué il y a un instant se tirent de ce livre des Actes en disant, vous voyez, les juifs qui se convertissent à Jésus, qui sont disciples de Jésus, continuent de respecter la loi. Mais à mon avis, cela ne vaut que du temps de transition. Ce qui permet d'accorder les données du livre des Actes avec les textes des Épîtres, qui montre que c'est fini, comme obligation en tout cas. Mais quand on n'a pas vu ça, quand on n'a pas cette idée de la période de transition, une génération en gros, en effet, il y a des arguments qui paraissent très forts. Voilà la situation telle qu'elle est à mes yeux.
Une dernière question. Alors en fait, c'est ma mère qui la pose, mais je la pose à sa place. Pourquoi Dieu a-t-il permis toutes ces atrocités commises contre les Juifs, enfin, cet antisémitisme? Pourquoi Dieu permet?
À cette question, j'ai une réponse qui est bien connue de tous mes anciens étudiants, donc de vous, je pense aussi. Mystère opaque. C'est la permission du mal et c'est une. Il y a d'autres formes de mal qui sont aussi horribles, hein, qui sont très fréquentes dans l'histoire. Pourquoi Dieu permet-il? Comment? J'ai écrit tout un livre pour essayer de montrer qu'il n'y a pas de réponse. Pas de réponse rationnelle. Que ceux qui ont cru pouvoir apporter des réponses, je les critique systématiquement. qu'on peut truquer des choses qui ne raisonnent pas, pas droit, que finalement il n'y a pas de réponse à notre pourquoi. Nous devons faire confiance au Seigneur. Et donc, le mystère, là, est un mystère que je dis opaque, on ne voit pas à travers du tout. Les autres mystères, le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation, sont des mystères de lumière. Ils nous dominent, ils nous éblouissent, nous ne sommes pas capables de les démonter, mais ce sont des mystères de lumière, nous voyons à travers, nous voyons même certaines harmonies à travers ces mystères. Pas le mystère de la permission du mal. Vous dites opaque. Et je crois que c'est parce que c'est le mal, justement, c'est ce qui caractérise le mal. Alors j'ai écrit tout le livre et je suis dans un autre livre que je n'ai pas encore terminé, depuis deux mois je n'ai pas pu l'écrire, mais qui touche aussi ce même sujet. Donc je réponds de cette façon à cette question si dure.
En tout cas, merci beaucoup à M. Blocher.